Bonjour à tous. Aujourd'hui, enquête sur la façon dont le parti de Marine Le Pen s'est positionné pendant le mouvement des Gilets jaunes. Le Rassemblement National a mis au point une stratégie qui, pour l'instant, semble lui profiter. C'est ce que vous allez nous expliquer. Frédéric Mettezeau, bonjour.
Bonjour.
Et puis nous recevrons Henri Boulier. Bonjour également.
Bonjour.
Alors vous êtes chercheur, vous publiez Toxic Lego. C'est un livre qui montre comment les industriels parviennent à empêcher l'interdiction de produits dont on sait pourtant qu'ils sont dangereux. Et puis j'en profite pour vous dire que Secret d'Info a reçu cette semaine le laurier de l'audiovisuel de la catégorie Information Radio. C'est une reconnaissance donc du travail de la cellule investigation de Radio France et nous sommes très heureux de partager cette récompense avec vous.
France Inter, Secret d'Info. Jacques Monin.
Le peuple français, sans organisation, sans le soutien de syndicats, sans le soutien de partis politiques, a décidé de descendre dans la rue de manière pacifique. Nos élus, nos sympathisants, nos électeurs ont participé évidemment à cette manifestation, à ces manifestations très nombreuses.
Voilà, celle que vous venez d'entendre, c'est évidemment Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement National, qui s'exprimait sur LCI le 18 novembre dernier. Alors disons-le clairement, le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement pluriel qui a révélé une fracture profonde entre une partie des Français et leurs élites, qui se caractérise par un rejet de toute représentation et qui a clairement évolué par rapport à ce qu'il était au début. Il n'est donc pas question ici, et disons-le, de le résumer à l'influence d'un parti politique, d'ailleurs quel qu'il soit. Maintenant, il n'est pas inintéressant non plus d'observer la manière dont les partis se sont positionnés au cours de cette crise sociale. Et c'est ce qui nous a amené à nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui au Rassemblement National, parce que Frédéric Mettezeau, c'est sans doute le parti qui a le mieux perçu dès le début ce qui était en train de se passer.
Oui, la plupart des autres partis sont passés à côté, et pour le mesurer, je me suis rendu dans le Médoc, une région de vignes, de marais, de pins et de longues plages océanes. C'est un secteur, le Médoc, qui vote Marine Le Pen à la présidentielle et qui a élu les deux seuls conseillers départementaux Front National en 2015. De la région Nouvelle-Aquitaine. Mais le Médoc, c'est aussi un terrain propice à la mobilisation des Gilets jaunes qui sont très nombreux depuis le 17 novembre.
Et pourquoi propice ?
Parce que le Médoc est enclavé par la route et par le rail. Les taux de pauvreté et de chômage y sont très élevés. Il y règne un sentiment d'exclusion et de relégation par rapport à la métropole bordelaise très dynamique ou aux châteaux qui produisent les vins parmi les plus célèbres du monde. Or, malgré tous ces voyants en rouge, comme vous le disiez Jacques, la gauche n'a pas vu le mouvement des Gilets jaunes arriver. C'est ce que m'a expliqué Segundo Saint-Bron. Il est maire de Saint-Isan-de-Médoc, c'est une figure de la gauche locale.
Je connais pas mal de militants de tous les bords, d'ailleurs, socialistes, communistes, des mélenchonistes, etc., à qui, dès le départ, j'ai essayé d'expliquer, il y a quelque chose qui est en train de se passer avec les gens, il faut être avec eux. Moi, si j'ai quelque chose à leur reprocher, c'est de ne pas avoir pris le train à temps.
Est-ce que vous pensez que les gens de l'extrême droite l'avaient compris plus vite, finalement, ce mouvement des Gilets jaunes ?
Ils l'ont peut-être compris plus vite, tout à fait au début, clairement. Le 17 novembre, ils étaient là, eux, en masse, partout.
Oui, ils étaient là en masse. Et qu'il y avait donc dans cette masse ?
Eh bien, on avait là de simples sympathisants, des électeurs, mais aussi des cadres du Rassemblement National. Et parmi eux, par exemple, le conseiller départemental du parti, Grégoire de Fournas. Alors, je lui ai demandé comment il avait rejoint ce mouvement. Vous, le 17 novembre, qu'est-ce que vous décidez de faire ?
Moi, je décide de participer au mouvement en tant que citoyen, en tant que viticulteur, en tant que père de famille, pour apporter mon soutien et ma petite pierre à cette mobilisation.
Et pardonnez-moi, j'ai toujours du mal à croire qu'un homme politique puisse complètement oublier la politique quand il va à la rencontre de ses concitoyens qui manifestent.
De toute façon, je suis élu local, donc forcément les gens me connaissent avec ce mandat, donc c'est difficile, si vous voulez, de le mettre de côté. Maintenant, je suis venu, si vous voulez, sans signe apparent, sans prosélytisme, sans revendication ou sans drapeau, voilà, ou sans tract du Front National. Mais c'est important aussi que les élus locaux s'investissent dans ce mouvement.
Oui, qu'ils s'investissent et qu'ils s'investissent intelligemment, si on peut dire, c'est-à-dire en étant présent tout en restant discret.
Effectivement, et ça, un journaliste en a été témoin, le rédacteur en chef du journal du Médoc, Dominique Barret. Il était en reportage ce 17 novembre sur un barrage.
Il ne m'en voudra pas. Grégoire de Fournasse, donc l'élu conseiller départemental, était présent dès le 17 sur un des lieux de blocage, filtrage de la circulation. Et dès que je l'ai aperçu pour le saluer, poliment, il m'a fui, m'a fait comprendre qu'il ne voulait pas être interviewé, ce que je ne souhaitais pas faire. Je souhaitais simplement le saluer. Donc ça démontrait bien sa volonté de paraître, d'être là, mais de ne pas être médiatisé comme un élu revendiquant ce mouvement. Il y a un accompagnement, une présence, quelques conseils, mais on n'était pas sur ce qu'on appelle vulgairement une récupération évidente, c'était plus subtil.
Ouais, plus subtil, ce qui veut dire donc être présent sans trop se montrer. Mais quand on le peut, on donne quand même quelques conseils.
Oui, parce que le Rassemblement National a bien saisi l'importance des Gilets jaunes. Il se devait donc de l'accompagner. Mais il ne voulait pas pour autant cautionner un mouvement de désordre. On le sait, hein. Au Rassemblement National, on aime l'ordre. Alors, Grégoire de Fournasse le reconnaît. Il a aidé les Gilets jaunes qu'il côtoyait à agir dans les clous.
J'avais décidé de ne participer qu'à un mouvement qui serait déclaré à la mairie, dont je m'étais un peu rapproché des organisateurs pour voir ce qu'il en était. Eux-mêmes ne savaient pas trop ce dont il s'agissait, parce qu'il faut bien voir que ceux qui ont organisé ce mouvement, c'est pas des gens qui sont des manifestants professionnels. Donc voilà, j'aurais suggéré de le déclarer, ce qu'ils ont fait.
Ouais, donc là-bas, contrairement à d'autres villes, on a manifesté, mais dans la légalité.
Oui, et résultat, dans le Médoc, très mobilisé, où près d'un automobiliste sur deux arbore un gilet jaune sous son pare-brise, eh bien, il n'y a pas eu de violence. Voilà pourquoi le mouvement dure encore aujourd'hui. J'ai pu le constater sur les ronds-points, d'ailleurs, où j'étais très bien accueilli à chaque fois.
Ouais, donc en Gironde, le Rassemblement National, on l'a vu, y est allé prudemment, disons, mais il y est allé aussi, et faut le noter, très
ouais,
tôt.
Oui, absolument. Hein. Son élu Grégoire de Fournasse s'est engagé dès le 12 novembre. Donc on est là, 5 jours avant les grandes manifestations du 17 novembre. Ce jour-là, lors d'une séance plénière du Conseil départemental à Bordeaux, le RN soumet une motion qui considère comme pleinement légitime la protestation des Gilets jaunes. Grégoire de Fournasse sera le seul à voter pour sa motion. La majorité de gauche et l'opposition de droite et du centre l'ont rejetée. Du coup, ça a permis au RN d'afficher un soutien clair et donc, avec de nombreux agriculteurs, il a pu investir les ronds-points et les barrages sans faire l'objet de rejet, explique Segundo Saint-Bron, le maire de Saint-Isan.
Quand les Gilets jaunes ne disaient pas de récupération, mais ça vaut aussi pour la gauche d'ailleurs, c'était pas du pipeau, c'était vraiment, ils voulaient pas du tout de récupération, et très très vite, celui qui arrivait en disant « je suis de telle partie et je vais vous expliquer ce qu'il faut faire », celui-là il s'est fait ramasser d'entrée de jeu. Bon, ils ont fait une tentative, à ma connaissance, à un moment donné, devant le centre des impôts, où ils sont arrivés pour jeter du fumier devant, ce que font souvent les agriculteurs. Le conseiller départemental du FN était là, d'ailleurs. Je pense que là, il y avait une tentative d'essayer de se faire mousser. En dehors de ça, après, très très vite, ils se sont fait beaucoup plus discrets.
Ouais, beaucoup plus discret, on l'a compris. Maintenant, ce qu'il est aussi intéressant de relever, Frédéric, c'est que cette stratégie de la discrétion, elle a été théorisée au Rassemblement National.
Oui, Grégoire de Fournasse et ses collègues RN d'autres régions que nous avons joints étaient tous sur la même ligne. Que fallait-il faire dans ce contexte de mobilisation? Les cadres du parti se sont posé la question au plus haut niveau avant le premier week-end de manifestation. Un député RN, très proche de Marine Le Pen, m'a fait part des discussions qu'il avait eues avec elle. Voici ses confidences, lues par un journaliste.
On en a débattu et on a tranché. On s'est dit qu'il ne fallait pas instrumentaliser un mouvement dont nous n'étions pas à l'initiative. Marine Le Pen m'a même dit « attention à ne pas faire de la récup à deux balles ». On a donc accompagné le mouvement de façon non institutionnelle, sans jouer la surenchère. Elle n'a jamais voulu qu'on aille trop loin dans le truc. On n'a pas surjoué.
On n'a pas surjoué. Et cette consigne d'être présent, mais de rester à distance, elle a été transmise ensuite sur le terrain.
Transmise par le délégué national chargé des fédérations, Gilles Penel. Il est élu Rassemblement National en Bretagne. Il a envoyé un email aux cadres et aux élus locaux en leur demandant d'apporter un soutien aux Gilets jaunes et de se rendre sur les ronds-points, mais sans faire de prosélytisme politique, c'est-à-dire sans insigne ou sans tracts du parti. Et cette consigne a ensuite été mise en œuvre sur le terrain, par exemple par ce proche conseiller de Marine Le Pen dans les Hauts-de-France et à Paris. Il m'a expliqué en off quelle était sa réflexion.
On comprend que ce mouvement citoyen ne veut pas être récupéré. On ne cherche pas à s'immiscer ou à être sur la photo, on ne ramène pas notre science et notre fraise. On est des gilets jaunes parmi les autres. On ne cherche pas à influencer le mouvement ou à haranguer les mecs sur les ronds-points. on parle avec eux gentiment, tranquillement. Quelquefois, ils reconnaissent nos élus, mais ils sont admis à condition de ne pas faire de prosélytisme lourdingue ou de récup qui n'a pas lieu d'être. Contrairement à François Ruffin, qui lui est allé faire des conférences de presse avec des gilets jaunes.
Oui, le Rassemblement National a donc réussi à accompagner le mouvement, mais il l'a fait d'autant plus facilement, Frédéric, qu'il en avait décelé des signes bien avant qu'il ne démarre.
Et notamment dans le Médoc, Grégoire de Fournasse se souvient d'avoir perçu très tôt un ras-le-bol bien précis. Il a été un précurseur en quelque sorte lorsque le gouvernement a annoncé qu'il allait limiter la vitesse.
Dès la mise en place des 80 km/h, moi j'avais organisé une manifestation. Nous étions d'ailleurs en gilet jaune à cette époque-là, c'était au mois de février 2018, pour manifester nos désaccords. Donc on a toujours été quelque part en pointe sur ces sujets-là. On a été capable de comprendre où était l'aspiration des Français, où était leur exaspération, et quelque part coller à leurs préoccupations. Donc je crois qu'on peut quand même nous rendre ça, oui.
Et on se sent d'autant plus en phase avec ce mouvement qu'au Rassemblement National, on explique que plusieurs revendications des Gilets jaunes figuraient déjà dans le programme présidentiel de Marine Le Pen. Citons la fiscalité, le sentiment d'oubli, la ruralité ou le référendum populaire.
Ouais, donc il y aurait une convergence des revendications. Bon, maintenant, si on y regarde de plus près, Frédéric, on se rend compte que c'est quand même un petit peu plus compliqué que ça.
Oui, il n'y a pas vraiment de convergence des revendications, en fait. Ce qui se passe, c'est plutôt que le RN va puiser sur le terrain, et notamment dans cette France dite périphérique, de quoi nourrir son programme. Ce n'est donc pas le RN qui diffuse ses idées, mais ce serait plutôt l'inverse, comme me l'a expliqué Stéphane François. Il est spécialiste de l'extrême droite et enseignant aux universités de Laval et de Mons en Belgique.
Le Rassemblement National et avant le Front National sont des partis populistes, des partis attrape-tout. C'est-à-dire qu'ils vont déjà humer l'air du temps, capter les revendications des populations et se les réapproprier. Donc quand Marine Le Pen dit « voilà, on est sur la même ligne », non. Ils sont sur la même ligne qu'une population dont ils avaient déjà récupéré les revendications par le passé.
Les 80 km/h, par exemple.
Par exemple. C'est parce que le Rassemblement National a senti que cette mesure serait impopulaire qu'elle a proposé ça. Mais c'était déjà en maturation au sein de la population. Il suffit juste d'écouter les propos de la population, c'est tout. Surtout dans certaines campagnes qui peuvent voter Front National exactement.
Oui, cela tend à conforter l'idée que le mouvement des Gilets jaunes n'est pas un mouvement d'extrême droite. Ce qu'a d'ailleurs bien montré une enquête de nos confrères du Monde qui avait constaté que la thématique, par exemple, de l'immigration qui est chère au cœur du RN, elle était quasiment absente chez les Gilets jaunes. Mmh. En revanche, Frédéric, ce qui est quand même vrai, c'est que le RN trouve dans ce mouvement une sorte de carburant.
Oui, et pour remplir son réservoir idéologique sans être rejeté, il joue un peu les caméléons. Vous évoquiez, Jacques, l'immigration, par exemple. Mais si on en parle peu, c'est parce que les sympathisants RN adaptent leur discours à des ronds-points où tout le monde ne pense pas comme eux, et loin de là. Yann Lelanne est sociologue à l'Université de Lille. Son collectif de chercheurs Quantité Critique a rencontré ou interrogé près de 800 gilets jaunes.
L'immigration, c'est un facteur de division très fort, et c'est compris par les responsables sur les ronds-points, qui estiment que si le mouvement part sur ce type de thématique, eh bien ça va créer une fracture et ça va en quelque sorte diviser, être une erreur stratégique. Ils le disent comme ça dans de très nombreux cas. Donc, les personnes qui sont à l'intérieur du mouvement et qui pourraient avoir des dispositions xénophobes le gardent dans leur intimité. Ils l'ont en tête, mais ils disent que le mouvement ne doit pas en parler.
Ouais, on n'en parle pas donc sur les ronds-points. En revanche, on en parle quand même dans d'autres lieux.
Oui, le RN et Marine Le Pen ont beaucoup communiqué dans les médias et sur les réseaux sociaux, notamment à propos du pacte de Marrakech, signé au plus fort du mouvement des Gilets jaunes. C'est aussi le RN qui a lancé, vous vous souvenez, sur Internet, cette polémique qui exagérait les conséquences du traité d'Aix-la-Chapelle quand on parlait de vendre l'Alsace et la Lorraine à l'Allemagne.
Ouais, un sujet que Marine Le Pen a effectivement beaucoup porté à ce moment-là. Mais puisqu'on y est, Frédéric, parlons-en. Marine Le Pen elle-même, comment elle s'est comportée par rapport aux Gilets jaunes ?
Eh bien, elle aussi a été prudente. Elle s'est appliquée ses propres consignes, bien sûr. Elle n'a jamais porté de Gilets jaunes, contrairement à Laurent Wauquiez. Elle ne s'est pas montrée sur les ronds-points ou dans les défilés. En revanche, elle a rencontré des délégations de Gilets jaunes dans le Vaucluse, après un meeting pour les Européennes, dans sa permanence parlementaire à Hénin-Beaumont, et même, selon nos informations, à l'Assemblée nationale.
Pardon ? À l'Assemblée nationale ?
Oui, oui. Oui, des gilets jaunes à l'Assemblée nationale en toute discrétion, sans que la presse ne soit prévenue ni invitée.
France Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
Alors, maintenant qu'on a évoqué la stratégie du Rassemblement National face aux Gilets jaunes, changeons de registre, Frédéric, et voyons ce qu'il en est cette fois-ci de l'ultra-droite. C'est pas la même chose. Et pour ça, on va aller à Bordeaux, parce que dans cette ville, des manifestations ont dégénéré, avec souvent d'ailleurs à la manœuvre, faut le dire, des militants de l'ultra-gauche, mais l'ultra-droite était aussi présente.
Oui, et je le redis, Jacques, hein, on ne parle plus du RN, on parle bien de ces activistes d'ultra-droite, parfois violents, souvent grossiers, ils sont loin de la politique institutionnelle. Wilfried Bessonnet est gilet jaune à l'Istrac-Médoc. Il se dit de gauche, écolo et pro-européen. Il a manifesté dès le premier jour dans le Médoc, mais plus tard, quand il est allé à Bordeaux, il a constaté que la sociologie de son mouvement était en train d'évoluer.
La première manif que j'ai fait à Bordeaux, je me suis retrouvé à côté d'un collectif avec des gilets jaunes floqués avec des ananas. Donc ça m'a vraiment choqué. Ananas, pour moi, ben, c'est du donné, hein, c'est la quenelle. Donc c'est la fameuse chanson et le sketch Ananas, qui est antisémite, il n'y a pas d'autre mot. Hein, c'est de l'antisémitisme pur et dur. Et en plus, je me suis retrouvé avec des gilets jaunes où il y avait floqué derrière la France aux vrais Français. Donc voilà, c'est là que je me suis posé la question d'une certaine infiltration au niveau du mouvement des gilets jaunes.
Infiltration, c'est-à-dire ?
Une infiltration idéologique avec par exemple le RIC, le RIC, ce référendum d'initiative citoyenne. Au début, il était complètement absent des revendications. Pendant le premier mois, on n'en parlait pas. Et puis on l'a vu apparaître. Or, ce RIC a été popularisé par Étienne Chouard, qui s'est rendu plusieurs fois sur des ronds-points de la Nouvelle-Aquitaine à l'invitation de certains gilets jaunes. Il a même donné des conférences. Et il faut savoir que ce professeur venu de la gauche s'est rapproché peu à peu d'Alain Soral et qu'il a parfois soutenu des théories complotistes.
Non, et des proches de cette mouvance, hein, donc des membres de l'ultra-droite, on en a retrouvé en fait un peu partout.
Oui, à Paris, à Lyon, on retrouve dans la rue le GUD, le Bastion Social, les Identitaires, les Zouaves. Ils portent souvent des emblèmes fascistes ou intégristes. Très souvent, ils ont affronté des militants d'extrême gauche et tous portaient un gilet jaune. Hein. On se souvient des batailles rangées par exemple dans les rues de Lyon. Et eux aussi ont réfléchi à la manière dont ils pouvaient rejoindre le mouvement. Plusieurs des figures de l'ultra-droite française se sont retrouvées le 19 janvier dernier à Rungis, près de Paris. Alain Soral, Hervé Rissen, vous savez, c'est celui qui était en une de Paris Match, ou Yvan Benedetti, qui est un ancien du Front National. Yvan Benedetti qui dit clairement, il ne faut pas récupérer les gilets jaunes, mais il faut les aiguillonner et les orienter.
Ouais, les orienter. Et pour les orienter, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on utilise les réseaux sociaux.
Oui, c'est ce que fait d'une manière générale l'ultra-droite. Et c'est ce que nous raconte encore une fois Stéphane François.
Les groupes d'ultra-droite ont investi massivement Internet. Déjà avant le phénomène des gilets jaunes, il y a des personnes qui passent leur journée, qui sont payées pour troller, diffuser leurs idées, créer des profils sur Internet. Il y a des créations, par exemple, de maisons d'agences de presse comme Novo Presse, des Identitaires. Deuxième point, ils vont créer de faux profils sur Facebook qui vont se proclamer gilets jaunes. Ils vont reprendre une partie des revendications des gilets jaunes. Et d'un autre côté, aussitôt, ils mélangent ces premiers éléments de langage neutre avec des positions plus politiques. Et là, on ne peut pas différencier un vrai profil d'un faux profil.
Ouais, c'est ce qu'on appelle porter un faux nez.
C'est ça, et un faux nez qui vous permet de faire passer des mots d'ordre, des mots simples en fait, percutants, comme « on crève la dalle »,« Macron dictateur ». Et Wilfried Bessonnet, notre gilet jaune de l'Istrac-Médoc, il les a entendus, ces mots, et il les juge efficaces.
L'extrême droite a une facilité et un lexique vocabulaire de la rue, des gens, des citoyens. Et c'est ça qui fait qu'ils sont audibles. Les extrêmes utilisent vraiment le vocabulaire du citoyen. Ils ont une facilité au niveau de l'adjectif. Quand ils vous parlent de démocratie participative, tout le monde est d'accord. Oui, participative, on va participer à la démocratie. Ils ont vraiment trouvé cette façon de parler aux gens. Mais qui les touche.
Oui, qui les touche peut-être. En attendant, Frédéric, l'ultra-droite, elle est extrêmement visible, elle est spectaculaire, mais elle reste minoritaire dans ce mouvement.
Oui, et elle a une très mauvaise image dans l'opinion publique. En revanche, et on en revient à lui au début de notre enquête, le Rassemblement National, qui est lui un parti institutionnel et d'aspect plus présentable, ce RN espère bien tirer profit de la crise et dès les européennes du 26 mai, comme me l'a confié ce député RN très proche de Marine Le Pen, dont les propos sont lus, encore une fois, par un journaliste.
On nous accuse souvent d'avoir été bourrins, mais pour une fois, on a été subtil et ça nous bénéficiera.
On verra dans 4 mois où en sont les gilets jaunes, mais qu'on le veuille ou non, nos idées instillent, elles diffusent. On verra donc aux Européennes quel choix politique est fait. Les Français préféreront-ils ceux qui ont les idées ou bien ceux qui les récupèrent ?
Et un autre membre du bureau national du RN m'a dit qu'il était capital pour son parti de bien gérer ce moment gilet jaune et surtout d'éviter, je le cite, une liste gilet jaune qui serait dangereuse car le dégagisme nous menace tous, fermez les guillemets, tous, Rassemblement National compris.
Oui, sous-entendu, on accompagne le mouvement, on essaye, on l'a vu, d'en tirer profit, mais on s'en méfie aussi. Bien, merci Frédéric Mettezo pour ces informations très éclairantes. Alors je précise que votre enquête, on peut la réécouter ou la podcaster sur franceinter.fr ou sur l'appli France Inter. Vous pouvez également nous y laisser des commentaires, tout comme vous pouvez le faire sur Facebook, Cellule Investigation de Radio France ou sur Twitter, Investigation RF. Allez, restez avec nous, on va parler de substances toxiques, mais qu'on ne parvient pas à interdire et on va le faire dans quelques instants. Of things you've got in mind, and when you wait, it's all in vain. You never said you'd do anything you made, excuses for your mind, objective goal. Don't you dare forget it. Don't you forget it. Don't you forget it. Don't do it. In the so above the hunger on the streets. With your safe and your document in its place, your money, your gun, your conscience sweet like honey. To think, see where you are as you begin to sink in your mirror, in your mirror, in your mirror, in your face. C'est tendre, c'est doux, ça donne envie de se lever sur un canapé. C'était In Your Face, extrait du dernier album de la chanteuse américaine Cat Power.
France Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
Alors, beaucoup plus prosaïque maintenant, nous recevons le chercheur Henri Boulier. Bonjour.
Bonjour.
Vous publiez Toxique Lego. C'est un livre qui montre comment des molécules parfaitement identifiées comme étant dangereuses sont tout de même autorisées. Et votre livre tombe à pic parce qu'il met en perspective, du coup, le débat qu'on peut avoir aujourd'hui sur le glyphosate. On en parlera tout à l'heure. Mais d'abord, expliquez-moi, j'ai retenu quelque chose en lisant votre livre qui m'a fait halluciner. Vous dites que 20% des jouets utilisés en Europe, donc par nos enfants, contiennent des substances toxiques.
Oui, c'est ça. Donc c'est un test qui a été mené par l'Agence européenne des produits chimiques en début 2018, en février.
Donc c'est récent.
Et qui montrait que 20% des jouets testés, donc il y avait beaucoup de produits qui étaient testés, hein, mais notamment les jouets, contenaient pour 20% d'entre eux donc des phtalates interdits, donc qui sont des molécules qui sont reconnues pour leurs propriétés de perturbateurs endocriniens.
Mais est-ce que les substances sont dangereuses à la fabrication ou est-ce que les jouets sont dangereux pour autant?
Ça, il y a une ambiguïté, mais en tout cas, c'est des substances qui sont censées normalement ne plus être présentes dans les jouets. Donc, c'est des substances dont on connaît la toxicité, qui peuvent être toxiques quand elles sont présentes dans des produits finis, donc des jouets notamment, et qui devraient plus être présentes et qui sont présentes quand même.
Vous avez un exemple?
Ce que je peux dire, c'est que c'est des jouets en plastique, et donc ça peut être des hochets, ça peut être des...
Mais des hochets, c'est des trucs qu'on met dans la bouche?
Ouais. Bah, alors l'exposition principale et la raison pour laquelle on s'inquiète de ces expositions, c'est justement parce que les enfants portent à la bouche les jouets et puis même il y a eu des interdictions sur des bijoux, etc. C'était la même chose. L'inquiétude, c'est ça.
Ouais. Alors ça nous amène effectivement à la question principale, c'est de se demander pourquoi on n'interdit pas ces choses-là. Et c'est l'objet de votre livre. Alors pour étayer votre propos, vous vous appuyez sur des exemples. On va en prendre un pour commencer. Vous parlez d'un plastifiant qui s'appelle le phtalate de diéthyléthyl. Alors c'est quoi le phtalate de diéthyléthyl?
Alors on l'appelle souvent le DEHP. Donc les phtalates, ce sont des plastifiants. Donc on les retrouve dans le PVC souple. Donc c'est des molécules qui sont très très répandues. On en a parlé un petit peu dans l'actualité à un moment, mais c'est vrai que c'est globalement assez méconnu du public. Et on les trouve dans, donc notamment on les trouve dans les jouets, mais on les trouve aussi, à un moment donné, on les trouvait beaucoup dans des dispositifs médicaux, donc des poches à sang par exemple, dans des cathéters, et on les trouve aussi dans des sols en PVC, et puis dans des rideaux de douche par exemple.
Les câbles électriques aussi?
Et les câbles électriques.
Alors, dans les années 90, donc l'OMS a considéré qu'il était cancérogène probable. Il a été rétrogradé d'ailleurs après, mais aujourd'hui, on sait que c'est un perturbateur endocrinien avéré.
Ouais, depuis les années 80, on sait que c'est un toxique pour la reproduction. C'était déjà pour ces raisons-là qu'il était désigné comme toxique. Et aujourd'hui, il est reconnu comme perturbateur endocrinien pour des raisons assez similaires. Donc, il est soupçonné de provoquer la stérilité chez les petits garçons.
Alors ça pose encore la question de pourquoi est-ce qu'on ne l'interdit pas? Par exemple, dans les années 2000, on a commencé à se poser la question, mais là on a eu tout le lobbying du patronat allemand et français où on expliquait que c'était des centaines de milliers d'emplois qui allaient disparaître si on n'utilisait plus ce produit-là.
Voilà, alors dans les années 2000, au début des années 2000, il y a une réglementation européenne qui a été négociée, qui s'appelle la réglementation REACH. Et là, il y a eu effectivement une forte mobilisation de l'industrie européenne. Ils ont fait plein d'analyses économiques qui montraient les dégâts potentiels sur l'économie européenne de l'adoption de ce règlement, qui a été finalement adopté en 2006, mais avec énormément de dérogations. Et puis globalement des ambitions qui ont été revues à la baisse.
On va voir ça dans le détail, mais ce qu'il faut préciser, c'est qu'à l'époque, on disait qu'il y aurait 300 à 700 000 emplois qui pourraient être perdus en France. Les politiques d'ailleurs ont suivi là-dessus, Jacques Chirac à l'époque.
Oui, il y a eu une lettre au moment des négociations de REACH, je crois que c'était en 2003, où il y a une lettre commune de Schröder, de Chirac et puis de Tony Blair qui disait qu'il fallait faire vraiment très attention à l'adoption de ce règlement parce qu'il pouvait potentiellement...
Et qui écrivent au président de la Commission européenne, qui était Romano Prodi à l'époque.
C'est ça, absolument.
Pour dire, il ne faut pas de réglementation trop contraignante,
des choses
qu'on entend encore aujourd'hui. Alors vous parlez de ce règlement REACH, qui a effectivement fait avancer les choses, parce que maintenant, il faut qu'on ait des informations fournies par les industriels pour décider d'autoriser ou pas. Donc il y a un principe d'autorisation qui n'existait pas avant.
C'est ça, donc il y a des nouvelles obligations, il y a à la fois un dispositif d'enregistrement qui oblige les industriels qui veulent continuer à commercialiser leurs produits à les enregistrer auprès d'une agence qui s'appelle l'Agence Européenne des Produits Chimiques, qui est à Helsinki. Et ensuite, pour les substances qui sont désignées comme étant les plus dangereuses par les autorités, il y a une procédure d'autorisation qui consiste en gros à obliger les industriels à faire des demandes individuelles d'autorisation s'ils veulent continuer à utiliser des produits qui sont identifiés comme toxiques.
Bon, cela dit, si on regarde dans le détail, d'abord, pour autoriser, il faut avoir des données pour savoir de quel produit il s'agit. Or, ces données, elles sont fournies par les industriels.
Voilà, donc dès la phase d'enregistrement, en fait, il y a déjà une très forte asymétrie entre ce que peuvent se permettre de faire les autorités et les entreprises. Donc, on a délégué aux entreprises le soin
d'enregistrer les données.
Ouais, c'est ça, de fournir les données, d'enregistrer leurs molécules. Et donc, du coup, il y a déjà un travail de négociation qui se fait à ce stade pour, il y a une marge de manœuvre pour choisir les études qu'ils vont soumettre. Et ensuite, il y a effectivement plein de dispositifs dérogatoires. Il peut y avoir des produits qui sont fabriqués à l'extérieur de l'Union européenne qui peuvent être importés sur le marché européen parce qu'il y a une exclusion des produits toxiques contenus dans les biens manufacturés.
Puis il y a des subtilités absolument incroyables. Par exemple, pour l'emballage des médicaments, le médicament a reçu une AMM, donc une autorisation de mise sur le marché. Donc on considère que cette AMM inclut la boîte elle-même, donc l'emballage lui-même, ce qui fait que l'emballage, même s'il y a des substances toxiques dedans, on l'autorise.
Oui, c'est ça. Donc,
il est couvert par l'AMM en quelque sorte.
C'est ça. Donc même si au moment de l'AMM, il n'y a pas d'évaluation en fait, de l'emballage des médicaments, c'était l'argument qui a été utilisé par les industriels qui produisent encore ce plastifiant, qui rentre dans la composition des emballages, de gélules par exemple, et qu'on argumentait auprès des autorités, auprès de la Commission européenne. Comme il y avait déjà une législation existante en place, il n'y avait pas besoin d'utiliser REACH pour couvrir cet usage-là.
Bon, cela dit, ça ne concerne pas que le plastifiant qu'on évoquait tout à l'heure. On trouve la même chose, par exemple, avec le trichloréthylène, qui est un solvant qu'on connaît moins maintenant, mais qu'on a connu pendant très très longtemps. C'est la même chose.
C'est la même chose. Donc, c'est un produit qui a été utilisé jusque dans les années 80. Il était connu parce qu'il y avait beaucoup de gens qui l'inhalaient. Et aujourd'hui, alors que sa toxicité est connue, qu'on sait qu'il est cancérogène et que les autorités voulaient l'interdire, il est lui aussi soumis à autorisation, mais là encore, comme pour les autres molécules, il y a des dispositifs dérogatoires qui permettent de le maintenir sur le marché.
Alors on se demande, quand on vous entend, on se dit mais pourquoi ? En même temps, la Commission européenne, sa vocation, c'est pas non plus de commercialiser des produits toxiques.
C'est un peu ce qu'on disait au début, c'est que dans le cadre des réglementations européennes, que ce soit celle-là ou d'autres, il y a des agences et des règlements qui sont soumises à une injonction paradoxale qui est à la fois de protéger la santé et l'environnement et en même temps de veiller à ce que le marché européen tourne. Et ça veut dire qu'il faut essayer de trouver en permanence une balance entre protéger la santé et puis s'assurer de la commercialisation des produits, que ce soit les médicaments, les pesticides ou les
produits. Sauf que là, la balance, si on vous lit, elle est favorable, elle penche clairement du côté des industriels et pas des consommateurs.
En tout cas, dans les cas que j'ai explorés, on voit que la contrainte qui pèse sur l'industrie est systématiquement ménagée, en tout cas pour les entreprises qui ont les moyens de se prémunir de ces réglementations. C'est la caractéristique commune des entreprises que j'ai regardées et des produits que j'ai regardés, c'est qu'ils sont commercialisés par des grands groupes industriels.
Et on en revient toujours à la question du lobbying qu'on perçoit évidemment à travers ça. Vous pointez en tout cas le rôle des cabinets de conseil aussi, des redoutables avocats des industriels dont vous dites qu'ils jouent un rôle prédominant.
Ce que j'ai vu, c'est que déjà c'était assez protéiforme. Il y a des cabinets de conseil, mais il y a aussi des coalitions d'industriels, il y a des associations professionnelles comme le CEFIC, qui représente l'industrie européenne de la chimie. Donc il y a énormément de formes de défense des intérêts industriels. Et évidemment, c'est des espaces qui permettent aux industriels qui produisent ces substances de défendre leurs intérêts auprès des institutions européennes.
De la Commission européenne, en l'occurrence, c'est à Bruxelles que ça se passe. Alors, je le disais en préambule, dans la question du glyphosate aussi, on voit la difficulté qu'a le gouvernement à arbitrer sur ce sujet, avec d'un côté donc l'emploi dans l'agriculture, et de l'autre côté des questions de santé publique. Mais c'est l'emploi qu'on privilégie pour l'instant.
Ce qui est intéressant dans le cas du glyphosate, c'est que les agences, que ce soit l'agence européenne, moi que je regarde, mais aussi l'EFSA, qui est l'agence de l'alimentation et donc qui regarde notamment les pesticides, ou même l'agence du médicament, elles sont systématiquement dans le même positionnement que celles que j'ai regardées, à savoir que les données sont en général intégralement produites par l'industrie. Et c'est ce qui se passe dans le cas du glyphosate. On a parlé des copier-coller.
Fameux Monsanto Papers.
Et donc dans les Monsanto Papers, et puis dans des controverses qui sont sorties ensuite par une ONG qui s'appelle Global 2000, qui a été relayée par Le Monde. On voit très bien qu'il y a une grande partie du dossier européen qui est basée en fait sur les études industrielles. cette dépendance totale aux industriels, elle laisse à minima soupçonner une situation de conflit d'intérêts. Et en fait, cette situation de conflit d'intérêts, on pourrait dire qu'elle est presque institutionnalisée. La manière même dont sont organisées les agences, les réglementations et la production des savoirs et de l'expertise place systématiquement les industriels en position de dominante.
Bon, on va quand même essayer de passer un bon week-end, hein, malgré ça, mais bon, il vaut mieux en être informé. Merci, merci Henri Boulier. Alors, je précise que votre livre, qui est très technique, très documenté, il faut le dire aussi, hein, c'est un livre de chercheur, hein, plus qu'un livre d'écrivain. En tout cas, ça s'appelle « Toxique Lego » et c'est publié par les éditions de La Découverte. C'est la fin de Secret d'Info, une émission préparée par Martin Broyer, réalisée par Christophe Imbert, avec une programmation musicale signée Jean-Baptiste Audibert et à la technique Johanna Gabric et Elisabeth Collet. Dans quelques instants, CO2 Mon Amour, Denis Chessou, va vous emmener dans les Côtes d'Armor et en Normandie. Excellent week-end à tous et à samedi prochain.